Lorsque l'on évoque les films majeurs sur la guerre du Vietnam, on pense immédiatement à Voyage au bout de l'enfer, Apocalypse Now, Full Metal Jacket et Platoon. Pas à Outrage. Le film de Brian De Palma, sorti en 1989, n'a jamais conquis la glorieuse réputation de ses concurrents. Pour quelle raison une œuvre n'imprime-t-elle pas dans l'inconscient collectif ? En raison de son sujet dérangeant, le viol d'une Vietnamienne commis par des soldats de l'armée américaine ? À l'occasion de l'édition du film en DVD Blu-ray chez Wildside, accompagné d'un livret écrit par Nathan Rera qui a inspiré l'écriture de ce podcast, tentons de décrypter pourquoi Outrage, malgré l'importance que De Palma lui accorde, n'a pas tout à fait la place qu'il mérite.
Une histoire de cinéma, un podcast revu et corrigé, coproduit par le Mouvement Up, présenté par Antoine Julien.
Nous sommes le 16 mars 1968 dans le village de Miley. Au petit matin, les dirigeants de la compagnie Charlie de l'armée américaine déboulent en hélicoptère dans le village vietnamien pendant que les habitants préparent leur petit déjeuner. Leur mission ? Chercher et détruire. Qui ? Des Vietcong. C'est le nom donné par le Vietnam du Sud aux communistes et à leurs alliés regroupés en 1960 dans le Front National de Libération. La guerre oppose en effet le Vietnam du Sud, soutenu par les États-Unis, au Vietnam du Nord et au mouvement indépendantiste du Sud, aidé par la Chine et l'URSS. Les Américains sont persuadés que des Vietcong se sont réfugiés à My Lai. Et pourtant, les soldats n'en verront pas, seulement des femmes, des vieillards et des enfants. Mais les soldats obéissent à leur supérieur, le lieutenant William Calley, qui leur dit de tirer sur tout ce qui bouge. Des mères qui tentaient de protéger leurs enfants sont sauvagement abattues. Leurs enfants, qui essayent de s'échapper, sont aussi tués. Les soldats ont violé et mutilé un grand nombre de femmes, détruit le bétail et mis le feu au village. Pas un seul coup de feu n'a été tiré contre les GIs par les Vietnamiens. Bilan, 504 morts. Hugh Thompson, un pilote d'hélicoptère de l'armée, qui survolait le village de My Lai avec deux hommes d'équipage, voit des soldats américains abattre une jeune Vietnamienne blessée. Il pose son hélicoptère et comprend que la compagnie Charlie se livre à un véritable carnage. Il demande à des soldats de la compagnie de l'aider à transporter des blessés. Mais ces derniers continuent à mitrailler des civils. Thompson ordonne à ses deux hommes d'équipage de tirer s'ils n'arrêtent pas leur massacre. Avec l'aide des pilotes des deux autres hélicoptères, il réussit à évacuer 12 Vietnamiens blessés. Partout où nous regardions, il y avait des corps. Des bébés, des enfants de 2, 3, 4, 5 ans, des femmes, des hommes très âgés. Pas de personne en âge de les ramasser, a-t-il déclaré en 1994, lors d'une conférence sur le massacre de My Lai à l'université de Tulane, à la Nouvelle-Orléans. Parmi les 504 victimes, il y a 182 femmes, dont 17 enceintes et 173 enfants. Pendant plusieurs mois, les officiers de la compagnie Charlie tentent de camoufler ce massacre jusqu'à ce qu'à la fin de l'année 1969, le journaliste Seymour Hersh publie un article sur l'affaire dans le New York Times. Devant le scandale, l'armée ordonne une enquête. 14 hommes sont accusés, dont le lieutenant William Calley, le capitaine Ernest Medina et le colonel Oran Anderson. Tous sont acquittés, sauf Calais, qui est reconnu coupable de meurtre avec préméditation pour avoir ordonné les tirs, même s'il prétend n'avoir fait que suivre les ordres de son supérieur, le capitaine Medina. Le 29 mars 1971, Calais est condamné à la prison à perpétuité, ce qui provoque un tollé aux États-Unis. Même les opposants à la guerre du Vietnam protestent contre l'emprisonnement de Calais. On condamne le fait qu'on se serve de cet officier comme bouc émissaire. Devant la protestation, le président Nixon décide de réduire la peine de Calais, qui obtient une libération conditionnelle en 1974. À une époque où environ 1500 Américains meurent par mois au Vietnam, la brutalité du massacre de My Lai et les efforts déployés par les officiers pour le cacher exacerbent le sentiment anti-guerre et nourrit le ressentiment face à la présence militaire américaine au Vietnam. Les institutions politiques et militaires sont violemment discréditées. Si un homme a toujours été perplexe face à cette guerre, la considérant comme un bourbier sans fin, c'est bien le cinéaste Brian De Palma. Mais pensait-il alors qu'un jour, il en ferait un film ? En 1969, Brian De Palma est un cinéaste encore en devenir. Après ses études à l'université de Columbia, où il réalisa ses premiers courts-métrages, il tourne son premier long-métrage The Wedding Party en 1964, puis Murder à la mode en 1968. En 69 donc, son troisième film, Greetings, sort sur les écrans. Il raconte comment trois amis, dont un certain Robert De Niro, tentent d'échapper à la conscription et ne pas partir pour le Vietnam. De Palma lui-même y était parvenu après s'être fait passer pour un homosexuel et un communiste. Greetings remporte un joli succès et le cinéaste décroche l'Ours d'argent au Festival de Berlin. Quelques mois après la sortie du film, il découvre dans le New Yorker du 18 octobre 1969 un article signé Daniel Lang, ancien correspondant de guerre en Italie durant la Seconde Guerre mondiale, qui décrit le calvaire subi par une jeune vietnamienne paysanne, kidnappée, violée, puis assassinée par un petit groupe de soldats américains emmenés par un sergent qui avait planifié son crime. Le militaire n'avait pas rencontré d'opposition dans ses rangs, à l'exception du premier classe Erickson, qui n'avait pas pu empêcher le crime de se produire, mais avait par la suite dénoncé les coupables, qui ont fini par être traduits devant une cour martiale. Les procès ont eu lieu en mars 1967. Les accusés ont été condamnés à des peines de travaux forcés jusqu'à la perpétuité, mais tous bénéficièrent de généreuses remises de peine. De Palma, bouleversé par cette histoire, souhaite acquérir les droits du livre de Lang, intitulé « Casualties of War », mais s'aperçoit qu'ils sont déjà pris. Le producteur David Susskind a en effet signé un accord d'exclusivité avec Lang et projette de réaliser une adaptation en collaboration avec la Warner. Au Festival de Berlin 1970, De Palma présente un film en compétition, Dionysus in 69, la captation d'une libre adaptation des Bacchantes de Ripide par une troupe de théâtre avant-gardiste. Durant ce festival, le cinéaste fait surtout la découverte d'un film qui va enflammer les débats, Hockey, de l'allemand Michael Verhoeven. De Palma l'ignore à cet instant, mais il s'agit d'une adaptation clandestine du livre de Lang. Tourné en bavarois avec un petit budget, le film raconte à peu près la même histoire. Un soldat s'oppose au viol d'une jeune femme par ses camarades, puis, après le meurtre de celle-ci, les dénonce auprès de sa hiérarchie et se heurte au cynisme des hauts gradés. La projection du film suscite l'enthousiasme, moins celui du président du jury George Stevens, qui y voit un brûlot anti-américain. Il tente de manœuvrer pour exclure le film, ce qui conduit au départ de l'un des membres du jury, Dushan Makaveyev. Face au tollé, le directeur du festival, Alfred Bauer, met fin prématurément au festival, le même sort qu'avait connu le festival de Cannes 2 ans plus tôt. La Warner attaque Michael Verhoeven et veut interdire la diffusion du film, estimant qu'il s'agit d'un plagiat grossier, mais perd son procès contre le réalisateur. Affaibli par cette bataille judiciaire, le studio décide d'abandonner le projet, sans doute effrayé par son aspect inflammable, de plus en pleine période de contestation étudiante sur le bien-fondé d'une guerre qui n'avait pas encore fait ses dernières victimes. En 1971, le cinéaste Elia Kazan reprend l'histoire vraie en imaginant la vengeance des violeurs contre Erickson après leur libération. Tourné dans la propriété de Kazan dans le Connecticut, en 16 mm avec un budget minuscule, le film est plongé dans une lumière blafarde, déplaisante, instillant un malaise inquiétant. Les visiteurs est une œuvre quasi inédite, Kazan étant le premier cinéaste à filmer aussi crûment les traumatismes du conflit.
Well, by the third day, we hadn't found anything, and Nickerson was beginning to get edgy. So we get to this village. It was marked friendly on the map. But Nickerson decided to get everybody out and search the huts for arms. So we lined them up while he and Tony looked the place over. They thought we were going to shoot them all. And I think Nickerson almost did. He was so angry about not finding anything. Well, in the last hut, a girl was hiding. Nickerson pretended he thought she was a VC. And he told one of the old men in the village that we were going to take her along as a hostage.
What'd she look like?
She was young, 15 or 16, pretty. I guess that's why she was hiding. That's what her mother said at the court-martial. A couple of miles up the road, Nickerson took her into the tall grass. The sound she made was... After a while, it was like Mac down there. It was just whining. And then Riley went next, and then Josephson, and Tony. And then they were waiting for me to do it. Well, I couldn't move. I mean, it didn't take any thought, any bravery. I just couldn't walk.
À la fin des années 70, Brian De Palma finit par acquérir les droits du livre de Daniel Lang. Après avoir enchaîné Phantom of the Paradise, Carrie, Obsession et Fury, le réalisateur est devenu incontournable dans le cinéma américain, bien que certains ne voient en lui qu'un pâle imitateur d'Alfred Hitchcock. Il décide de collaborer avec le scénariste David Rabe, qui est lui-même un vétéran de la guerre du Vietnam. Les deux hommes planchent d'abord sur le scénario du Prince de New York pour Orion Pictures, mais le duo est évincé du projet au bout d'un an. Le film sera finalement réalisé par Ciné Lumet. De Palma écrit alors seul le scénario de Pulsion, puis tourne plusieurs films dans les années 80, avant le succès des Incorruptibles en 1987. Un succès qui lui permet de relancer Casualties of War, Outrage en français. Sur les conseils du producteur Art Linson, avec lequel il vient de tourner Les Incorruptibles, De Palma contacte Ted Tannen, l'un des dirigeants de la Paramount qui a aussi produit le film, pour lui proposer le projet. L'époque a changé. Une vague de longs métrages traitant frontalement de la guerre du Vietnam déferle dans le monde entier. Quelques mois plus tôt, Platoon d'Oliver Stone a triomphé aux Oscars, Full Metal Jacket de Stanley Kubrick est encore sur les écrans et Robin Williams va bientôt faire sensation dans Good Morning Vietnam. Le conflit n'est plus tabou. Depuis la fin des années 70, les cinéastes s'en emparent. Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino a bouleversé les Américains et Apocalypse Now de Francis Ford Coppola a électrisé la croisette en remportant la Palme d'Or. De Palma rappelle David Rabe qui se lance dans l'écriture du scénario. Les deux hommes décident de suivre fidèlement le livre de Lang et garder la structure en flashback. Au début du film, on voit Erickson dans le métro de San Francisco se remémorant l'enfer vécu au Vietnam. Et dans l'épilogue, Erickson aperçoit une jeune femme vietnamienne dans le métro qui lui rappelle fortement celle qu'il n'avait pu sauver. Dans le livre d'entretien mené par Samuel Blumenfeld et Laurent Vachaud, édité chez Carlotta, De Palma explique la raison qui l'a conduit à raconter son histoire en flashback. Lorsque j'habitais dans le nord de la Californie, ma femme et moi vivions près d'un hôpital militaire. J'y voyais traîner des vétérans du Vietnam et leur regard exprimait clairement qu'ils revenaient de l'enfer. Ils erraient, hagards. Je me souviens d'un type qui se prenait pour un agent de la circulation. Il se pointait à un croisement puis retraversait la rue et rentrait. Vous avez affaire à des gens dont l'expérience est incommunicable et dont la plupart sont devenus fous. Il me fallait pourtant bien trouver un moyen de relater cette expérience et je ne pouvais y parvenir qu'en la raccordant à une réalité que nous connaissions tous. C'est pour cela que j'ai choisi cette structure en flashback. David Rabe a cependant pris plusieurs libertés avec l'histoire vraie. Dans la réalité, le sergent Meserve, ce n'est pas son vrai nom, comptait bien tuer la vietnamienne. C'était un acte prémédité, alors que dans le film, il la tue parce qu'elle risque de les faire repérer. De même, Robert Storby, le vrai Erickson, n'a jamais tenté de fuir avec la prisonnière, contrairement à ce qui est montré dans le film. De Palma est satisfait du scénario, mais propose à Rabe une autre fin, inspirée des Visiteurs de Kazan, dans laquelle le sergent Meserve et son collègue font irruption dans la maison d'Erickson et s'en prennent à sa femme et son fils, dans un acte de vengeance. Avant qu'Erickson se réveille en sursaut, signifiant la fin du cauchemar. Une fin qui ne sera finalement pas retenue au montage final. La Paramount fait volte-face et refuse le projet, car le studio estime que personne ne se déplacerait pour aller voir l'histoire d'une fille qui se fait violer puis tuer par une patrouille de soldats américains. Ils ne veulent pas se lancer dans une entreprise aussi peu rentable et risquée. Grâce à un concours de circonstances, l'un des soutiens de De Palma à la Paramount, Don Steele, est nommé à la tête de la Columbia, qui récupère le projet. Le casting débute à l'été 1987 sous la supervision de Lynn Stallmaster. Plusieurs séances sont organisées à New York, Chicago et Los Angeles. Pour le rôle du sergent Meserve, Art Linson recommande à De Palma de choisir Sean Penn, qu'il connaît bien. Le rôle d'Erickson met plus de temps à être pourvu. De Palma, qui a le même agent que Michael J. Fox, fait lire le scénario à l'acteur, qui est emballé. À l'époque, Michael J. Fox était surtout connu pour ses comédies à la télévision et le film Retour vers le futur, mais il voulait changer de registre. Selon De Palma, il a su amener de l'innocence et de l'intégrité à son rôle. Mais le vrai challenge pour le cinéaste réside dans le choix de l'actrice qui incarnera Oan, la victime tragique de cette histoire. De Palma tenait absolument une actrice vietnamienne. Il organisa un casting dans le monde entier pour finalement trouver Thuy Thu Lee à Paris, une étudiante de 24 ans sans aucune expérience qui a quitté son pays à l'âge de 8 ans avec son père, qui était diplomate au Vietnam du Sud. Le cinéaste visionne son bout d'essai et, convaincu, lui fait passer une nouvelle audition. Elle joue la scène où, après avoir subi le viol, le personnage d'Erickson lui parle et tente de la persuader de s'enfuir. De Palma en ressort bouleversé, il a trouvé son personnage. Eric Schwab, qui avait déjà travaillé avec le cinéaste sur Body Double et Les Incorruptibles, est chargé d'effectuer les repérages dans l'Asie du Sud-Est. L'équipe jette d'abord son dévolu sur les Philippines où avaient été tournés Apocalypse Now et Platoon. Mais après l'assassinat d'Américains par des rebelles philippins, l'équipe décida de poser ses caméras en Thaïlande. Le tournage peut débuter au printemps 1988 pour un budget de 22 millions de dollars. Le cinéaste est entouré d'une solide équipe de techniciens, composée de nombreux Britanniques à des postes clés, mais aussi des techniciens locaux et de l'armée thaï qui a fourni une partie importante du matériel militaire que l'on voit dans le film. Dès les premiers jours de tournage, De Palma chamboule son casting. Il vire Stephen Baldwin, qui devait interpréter Hatcher, le bras droit du sergent Meserve. Le cinéaste trouvait son interprétation un peu ridicule et le remplaça par le néophyte John C. Reilly. Les prises de vue se déroulent d'abord dans le sud du pays, à Phuket, où sont filmées les scènes de jungle. Pour tourner la séquence d'ouverture dans la jungle nocturne, où le groupe se fait attaquer par des Viet Cong, le cinéaste fit construire un studio à ciel ouvert, au milieu de la forêt vierge. Dans cette scène, Erickson se retrouve coincé dans un souterrain ennemi, à la merci d'un Viet Cong prêt à le tuer. De Palma a filmé l'intérieur du souterrain à l'aide d'une grue pour obtenir un mouvement de caméra particulièrement complexe, comme il les affectionne, élaboré grâce à un storyboard conçu par ordinateur. L'équipe subit des conditions climatiques durement éprouvantes, avec une chaleur approchant les 50 degrés et une humidité de tous les instants, sans compter les déluges quotidiens. Plusieurs techniciens tombent malades, victimes de dysenterie et d'insolation, et l'équipe est régulièrement à la merci de serpents venimeux et autres sympathiques bestioles pas très hospitalières. Ils durent même recruter des gens du coin qui utilisaient des larges balais pour frapper le sol aux endroits où ils tournaient. Les techniciens portaient des rangers aux pieds afin de se protéger d'éventuelles morsures. Del Dai, ancien capitaine du corps des Marines et vétéran du Vietnam, propose à De Palma de mettre en place un entraînement militaire pour les acteurs. Sean Penn fit preuve d'un investissement total afin de se transformer en véritable soldat. Mais l'entraînement prit des proportions inattendues. Un des coachs du groupe, un vétéran lui aussi et ex-inspecteur de la police de Los Angeles, ne trouvant pas l'entraînement suffisamment intense, planifia des simulations d'assaut en pleine nuit, dans la rivière. Les acteurs en sortaient blessés et couverts de bleu. L'instructeur a même appelé Sean Penn en plein milieu de la nuit pour lui dire « Rassemble les hommes dans le périmètre à 0200 », signifiant 2 heures du matin. Penn lui aurait répondu « T'es pas un peu malade? C'est un film qu'on fait là, pas la guerre ?» De Palma finit par virer l'instructeur forcené. Sur le plateau, les tensions entre Sean Penn et Michael J. Fox sont perceptibles. Penn n'adressant quasiment pas la parole à son acolyte afin de le déstabiliser, alors qu'il loge dans le même hôtel. Une tension qui se retrouve à l'écran, notamment dans cette scène où le personnage d'Erickson, seul contre tous, doit affronter le sergent Meserve.
He's a chicken shit, man. I'm gonna cut his heart out.
How are we gonna count on you? You're a goddamn BC sympathizer. I mean, you could get killed real easy, don't you know that? Somebody stumbles. They don't mean to shoot you. They're sorry. Friendly fucking casualty. I mean, a body bag's a body bag, right? Who's counting? Your mom is crying. Your daddy's pissing and moaning.
He's dead.
What?
He's dead. My father's dead.
Who cares, man? Nobody cares about your goddamn family history, pal. Nobody's asking about that.
You're taking your turn in there.
No.
Well, maybe when I'm done with her, I'm gonna come after you. Maybe when I'm done humping her, I'm gonna come hump you. Were you gonna take an attack posture with me? Yeah, you got a weapon. Clark got a weapon, Clark got a knife. We all got weapons. Anybody can blow anybody away, any second. Which is the way it ought to be. Always. The army calls this a weapon. But it ain't. This is a weapon. This is a gun. This is for fighting. This is for fun.
Sean Penn passe son temps à provoquer Michael J. Fox sur son statut d'acteur de télé, ce qui avait pour conséquence d'irriter le comédien qui voulait changer d'image. Au moment de la scène du procès, lorsqu'il murmure à l'oreille de Michael J. Fox une phrase inaudible, Sean Penn lui aurait lancé « espèce de star de télé ». L'acteur est resté menaçant envers lui, comme l'était le sergent Meserve envers Erickson. Le dernier jour du tournage, Michael J. Fox laissera un mot à Sean Penn, résumant bien son état d'esprit. « Ce ne fut pas un plaisir, mais un privilège ». Mais le plus difficile pour De Palma fut le tournage de la scène du viol. Voici comment le réalisateur a envisagé cette scène, comme il le raconte à Samuel Blumenfeld et Laurent Vachaud dans leur livre d'entretien. Nous avons filmé du point de vue de Michael, avec un objectif à long foyer. Le viol était filmé dans le même axe, avec la même focale, mais je l'avais ponctué par une série de fondus enchaînés. Cette distance choisie pour filmer cette scène rend le raccord de Michael saisissant. Le moment où on revient sur son visage en très gros plan. Il n'y a pas de gros plan aussi rapproché que celui-là de tout le film. J'y avais justement veillé. Erickson est resté assis là, à regarder des heures durant la fille se faire violer, sans rien pouvoir faire. Le spectateur voit la scène de son point de vue et ressent le même sentiment d'impuissance. C'est comme si vous vous trouviez dans une pièce et qu'à l'étage du dessus, une fille se faisait violer pendant 3 heures. Vous ne pouvez entendre que ses cris. Si la caméra repassait sur vous, imaginez le genre de tête que vous feriez. C'est ce que j'ai essayé de capter avec ce très gros plan sur le visage de Michael. Si le réalisateur a filmé la scène de manière très sobre, en retrait, c'est aussi parce que l'actrice Thuy Thu Le avait accepté de jouer dans le film à la seule condition qu'elle n'apparaisse pas nue à l'image. De Palma dut faire appel à une doublure. L'équipe est ensuite partie à Bangkok, puis a remonté la rivière Kwai pour tourner la séquence de la voie ferrée dans laquelle Ohan se fait assassiner. L'ironie de l'histoire, c'est qu'il s'agit du vrai pont de la rivière Kwai où n'avait pas pu tourner David Lean en son temps. Le tournage de cette séquence ne sera pas sans heurts. Dans la scène, Thuy Thu Le meurt sous les balles et tombe dans le vide. Sa doublure, qui doit exécuter une chute de 4 mètres, finira à l'hôpital. Le tournage se termine par l'épilogue, qui se déroule à San Francisco, non loin de la mission Dolores, le fameux décor du Vertigo d'Hitchcock, où James Stewart suivait Kim Novak jusqu'à la tombe de Carlotta. Décidément avec De Palma, l'ombre hitchcockienne n'est jamais loin. Après le montage et l'enregistrement de la musique composée par Ennio Morricone, les premières projections test arrivent, et elles ne sont pas très prometteuses. Le public trouve le film trop sombre et douloureux. Outrage sort aux États-Unis le 18 août 1989. David Rabe déclara publiquement désapprouver la fin retenue par De Palma, qu'il jugea excessive et trop appuyée par la musique de Morricone. Le film est aussi rejeté par les vétérans. Malgré l'excellente critique de la redoutée Pauline Kael du New Yorker, la presse dans son ensemble est plus mitigée, louant l'interprétation de Michael J. Fox mais jugeant celle de Sean Penn caricaturale et surjouée. Le coup de grâce viendra de Francis Fitzgerald dans le Village Voice. L'auteur de Fire in the Lake, récompensé par le prix Pulitzer, qualifiera le film de sado-porno enrobé de sentimentalisme. Outrage ne passionne pas non plus les spectateurs et le film est un échec au box-office. Et pourtant, ce qui irrigue tout le film traverse une grande partie de l'œuvre de Brian De Palma, à savoir l'incapacité des hommes à empêcher le mal de frapper. Dans Body Double, le personnage voit que sa voisine va se faire assassiner mais arrive trop tard, et John Travolta ne peut éviter la mort de Nancy Allen à la fin de Blowout. De Palma est fasciné par l'impuissance d'Erickson, incapable d'empêcher une atrocité de se produire et qui le hantera toute sa vie. Le plus grand traumatisme de la société américaine de la deuxième moitié du XXe siècle fut la guerre du Vietnam. 58 000 soldats y laissèrent la vie, plus de 300 000 revinrent blessés. Dans Outrage, Brian De Palma filme des êtres à jamais broyés par le conflit, qu'ils soient du bon ou du mauvais côté de la barrière. Les larmes du cinéaste à l'évocation du film, lors d'une masterclass donnée à la Cinémathèque française, prouvent à quel point Outrage tient une place particulière pour lui et qu'il reste à ce point douloureux. C'est un film très triste, confessa-t-il en sanglots. La musique me bouleverse. C'est très difficile pour moi de le regarder. C'était une histoire de cinéma, une émission revue et corrigée, le média consacré à l'actu des classiques du cinéma. Merci au Mouvement Up, média et producteur de podcasts. Retrouvez une histoire de cinéma sur toutes les plateformes de podcasts et sur le site de Revue et Corrigée. Revue et Corrigée vous donne rendez-vous la prochaine fois pour La Grande Vadrouille, animée par Pierre Charpilloz, au festival Viva Cinéma de Valence. Et moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau chapitre.